dans le village, hein?
Ouais, le gros village. Mais c'était à Lévis, il y a quelqu'un qui a décidé d'avoir un accident, ça leur tentait. Fait que...
À Lévis, mais... ouais, les gens de Lévis sont un peu tout croches.
Mais c'est ça. Ouais, c'est ça. C'est beau. Mais je me prononcerai pas, c'est comme les gens de Longueuil, moi. J'ai toujours des doutes. Quand quelqu'un dit qu'il vient de Longueuil, ça arrive sud de Montréal, je suis toujours comme. Il est peut-être sauvé, mais. Toujours le. Mais. C'est pas sûr. Mais c'est ça, donc, pour ceux qui nous connaissent pas, ma famille et moi, c'est ça. Moi, j'ai grandi au Québec, j'ai grandi sur la rive sud de Montréal, à Boucherville. Mon épouse, elle a grandi en Ontario. Et puis, c'est ça, on s'est rencontrés à l'école biblique en Ontario. Marié en 2003, on était en Ontario pendant plusieurs années. Et c'était toujours clair dans notre cœur que Dieu voulait qu'on vienne au Québec pour implanter des églises. Et puis, on était allé à Montréal, on avait commencé l'église baptiste de la Cité Lumière en 2011, directement devant l'hôpital Sainte-Justine à Montréal. C'était facile à trouver. Et puis, on avait commencé l'église dans notre maison en 2011, dans notre salon. Puis, ça avait duré 4 semaines, on n'avait plus d'espace, il fallait louer. On avait loué au Collège Brébeuf. Et puis, deux des familles qui étaient venues le premier dimanche sont encore avec nous aujourd'hui, gloire à Dieu pour ça. C'est des piliers dans l'église. Et puis, pasteur Pelletier, bien, j'ai David Godin qui était avec moi, lui, qui connaissait bien mieux que moi les Pelletiers. Et puis, il avait commencé l'église baptiste centrale de Laval en 1994, je crois. Ironie du sort, moi j'étais là à la première réunion, j'avais 14 ans, puis on était tous allés de notre église pour implanter, aider avec les premières réunions, sans savoir que je serais le pasteur de cette église-là plus tard, là, on ne sait jamais là, qu'est-ce qui va arriver dans la vie. Mais enfin, finalement en 2015, quand pasteur Paul Pelletier est décédé, on a décidé de fusionner les deux églises ensemble, celle qu'on avait à Montréal et puis celle qui était à Laval. Et le Seigneur a béni, puis là on a le bâtiment qu'on a, vraiment la grande nouvelle de ce côté-là maintenant, c'est... Côté bâtiment, on est vraiment à l'étroit. Ceux qui sont déjà venus, pasteur Roy connaît bien le bâtiment. On n'a pas beaucoup de place, ni de stationnement. Je sais que pour vous aussi, sans doute que le stationnement, parfois, ça doit être un défi. Mais pour nous, là-bas, ça l'est un... En même temps, ça empêche les visiteurs de venir. Point à la ligne. Là. C'est... Même ce matin, mon épouse me textait. Il y avait deux de nos familles majeures là, qui étaient malades puis qui n'étaient pas à l'église. Moi, j'étais pas là. Puis encore là, il manquait de place. Donc, on a vraiment besoin d'un autre endroit. On prie fort. Il y a un bâtiment, une autre église à Laval-Ouest qui a des difficultés. Puis il n'y a pas beaucoup de monde qui reste dans l'assemblée. Je ne dis pas ça de gaieté de cœur, je veux juste être transparent. Mais eux, leur bâtiment, ils n'ont pas vraiment les moyens de le conserver. Puis s'ils ont les moyens de l'avoir, ils n'ont pas les moyens de le conserver en état fonctionnel. Donc on est en discussion pour voir s'il n'y aurait pas une possibilité que nous, on prenne le bâtiment et qu'eux puissent l'utiliser l'après-midi, puis que nous, on puisse l'utiliser. Mais nous, on pourrait le rénover, le mettre à jour et tout. C'est un bâtiment que, si le Seigneur nous l'accorde, si les choses sont bien faites, il pourrait avoir 175 places assises dedans. Donc, vraiment, ça nous donnerait l'occasion de on n'a pas besoin de tant de places que ça pour l'instant, mais ça nous donnerait, pour les dimanches matins, du moins, de ne pas être à l'étroit. Il n'y a rien de parfait. Il n'y aurait pas assez de place pour des classes d'école du dimanche et tout. Donc, il faudrait qu'on soit créatif là-dessus. Mais on fait confiance au Seigneur, mais c'est vraiment le sujet de prière qui nous tient beaucoup à cœur présentement. Puis dans les prochaines semaines, 2 semaines, 3 semaines, on devrait avoir des précisions là-dessus pour savoir si le Seigneur ouvre cette porte-là ou non. Mais je le souhaite. Mais encore là, c'est pas son église. C'est son église, c'est pas la nôtre. C'est pas notre église, c'est son église. C'est lui qui décide. Pas son église, wow. Mais c'est ça.
Hérésie!
Hérésie, c'est ça. T'sais. Mais ultimement, c'est ça. On veut absolument... que ce soit soi volonté, même si telle voie paraît droite à un homme, mais son issue, c'est la voie de la mort. Et puis, on veut sa volonté, non la nôtre. Alors, merci pour vos prières et votre soutien. On apprécie beaucoup. Et puis, encore cette année, on a pu voir des gens baptisés. Désolé que j'ai manqué le baptême. Je venais juste de finir un service de baptême. Et puis, je fais là, ça, c'est là. Mais c'est ça. En fait, il y a un baptistère là-bas qu'on doit démancher dans le nouveau bâtiment parce qu'il est comme mis en plein centre. Il n'est pas dans un endroit logique comme ici. Donc, on verra, on en a un portatif, mais on fait confiance à Dieu. Alors, allons dans Tite chapitre 3, cet après-midi. Tite chapitre 3, et puis pasteur Roy juste me faire signe de la main quand si vraiment j'overstay mon welcome, là. Et puis faire un montréalicisme, on parle en franglais. Mais on va regarder dans Tite chapitre 3 rapidement. Et puis, j'aimerais parler de ce sujet pendant quelques instants. Comment éviter une vie infructueuse? Comment éviter une vie infructueuse? On s'en va dans l'épître de Paul à Tite. Qui peut me donner une description en une phrase des Crétois, là où Tite habitait? Les Crétois, à quoi ressemblaient les Crétois, les gens de l'île de Crète? Il n'y a pas beaucoup de compliments à leur faire, n'est-ce pas? T'sais, honnêtement, je me dis, quand je me dis que le Québec est difficile, je me dis, au moins, je suis pas à Crète. C'est déjà une consolation. Mais commençons au verset 12, puis on va lire jusqu'à la fin du chapitre. Dans Tite, chapitre 3, verset 12, l'apôtre Paul écrit à Tite, puis il dit, « Lorsque je t'enverrai Artimas ou Tichic, hâte-toi de venir me rejoindre à Nicopolis, car c'est là que j'ai résolu de passer l'hiver. » Aie soin de pourvoir au voyage de Zénas, le docteur de la loi, et d'Apollos, en sorte que rien ne leur manque. Il faut que les nôtres aussi apprennent à pratiquer de bonnes œuvres pour subvenir aux besoins pressants, afin qu'ils ne soient pas sans produire de fruits. Tous ceux qui sont avec moi te saluent. Salut ceux qui nous aiment dans la foi, que la grâce soit avec vous tous. Prions. Père Céleste, dans les instants que nous allons prendre dans la parole, nous sommes convaincus, nous savons que la parole a été donnée par l'inspiration du Saint-Esprit et elle a été donnée parfaitement pour accomplir dans nos cœurs ce que toi tu désires accomplir. Cependant, la tâche d'enseigner ou la tâche d'édifier ton peuple, c'est quelque chose qui est au-delà de la capacité humaine. C'est quelque chose que seulement le Saint-Esprit peut faire. Et ce que je te demande, c'est de simplement utiliser la parole que toi-même tu as inspirée et que tu puisses l'appliquer à chaque cœur de façon à ce que lorsque nous allons quitter, que chaque personne puisse savoir avec une entière clarté comment le Saint-Esprit désire mettre cette vérité-là en pratique, en évidence dans nos vies. Alors que nous puissions savoir comment marcher, pas dans nos forces, certainement pas dans notre intelligence, mais plutôt avec toi qui produis en nous le vouloir, mais ensuite aussi le faire. Et je le prie dans le nom du Seigneur Jésus. Amen.
Amen.
On va rendre compte au Seigneur un jour et je rends grâce à Dieu que je suis sauvé. Mais même étant sauvé, je ne voudrais pas me présenter devant lui en ayant honte, en ayant vécu une vie infructueuse. Une expression en anglais, je la traduire en français. Il y a certaines personnes qui disent « ma plus grande crainte, c'est d'être un succès dans quelque chose qui est sans valeur aux yeux de Dieu ». Déjà, des fois, il y a des gens qui deviennent grands aux yeux des hommes, ils deviennent des leaders dans un domaine, mais c'est quelque chose que quand Dieu regarde la chose, ça n'a pas d'impact éternel. C'est quelque chose qui va mourir ici. Le jour où le Seigneur revient, ça n'aura plus d'importance. Ou même le jour où la personne se fait mettre en terre, ce sont des choses qui n'ont plus beaucoup de signification. Puis aujourd'hui, on vit dans une société où les gens savent paraître fructueux, mais sans vraiment l'être. Je ne sais pas si vous avez déjà suivi le compte Instagram de quelqu'un ou le Facebook, puis vous dites « Wow! Regarde cette famille-là, ils sont parfaits! » Puis là, vous apprenez à les connaître, puis on dirait que la réalité n'est pas tout à fait comme l'image. Et on apprend à paraître. Puis des fois, en tant que chrétien, on peut apprendre à paraître spirituel, ou paraître occupé, ou paraître passionné, puis dans le cœur, c'est pas pareil. Parce que si c'est pas l'esprit qui le produit en nous, forcément, c'est frauduleux. Soit c'est l'esprit ou c'est de la fraude. C'est vraiment les deux options qu'il y a. Mais des fois, on peut paraître comme des chrétiens fructueux sans l'être pour autant. Des fois, il suffit de trouver une église qui fait quelque chose où Dieu est là, puis on va assister là, puis on profite de la réputation de l'église pour faire la nôtre, ou etc. En 2014, ils ont fait une étude à l'Université de la Caroline du Nord, puis ils examinaient l'apparence des gens versus la réalité des gens. Et puis, il y avait une page en 2014 sur les réseaux sociaux qui s'appelait « Sauver le Darfour ». Il y avait des événements au Darfour qui avaient lieu. Puis, il y avait 1,4 million d'individus qui aimaient la fameuse page et qui donnaient l'impression d'être très, très préoccupés par ce qui se passait au Darfour. Puis, ils ont pris certains étudiants en doctorat ou en maîtrise et ils ont examiné, ils n'ont pas pu faire les 1,4 million de personnes, mais ils ont vérifié les 100 000 premières personnes qui aimaient la fameuse page. Et puis, ils ont découvert que 99,8% des gens qui likaient « Aidons le Darfour » n'avaient absolument rien fait pour aider le Darfour. Fait que 0,02% des gens aimaient ou faisaient quelque chose concrètement pour aider le Darfour. Et puis là, ils ont réalisé que vaut mieux, un des chercheurs a tout simplement dit, si nous avions eu 2000 personnes physiquement intéressées, ils auraient accompli plus que ce 1,4 virtuellement intéressé. Parce que les gens étaient plus intéressés à paraître qu'à être. T'es plus intéressé à paraître préoccupé par le Darfour qu'à vraiment faire quelque chose. Maintenant, les gens d'Antipe ici, les Crétois, ne sont pas les plus recommandables dans l'Empire romain. Ils sont reconnus comme des paresseux, des menteurs, des gloutons. Même dans l'Empire romain, il y avait une expression, se crétaniser. Crétaniser, ça voulait dire si je te paye assez, tu vas mentir pour moi. C'était un verbe. Se crétaniser, devenir crétois, ça veut dire, dans le fond, je vais dire ce que tu veux que je dise si tu me payes assez. Ça, c'était la crétanisation, pas crétin, crétanisation de quelqu'un. C'était d'être à la solde, moralement à la solde de quelqu'un d'autre. C'était pas des gens qui étaient aimés. Moi, j'ai beaucoup d'Africains dans l'Église, et puis il y a certains pays en Afrique qui n'ont pas une belle réputation. Même parmi les croyants. Puis là, ils vont dire, quelqu'un vient de tel pays en Afrique, tous les Africains dans l'Église sont comme... Écoute, dans tous les pays, il y a des gens, des disciples de Jésus. Ils me disent, ouais, mais dans d'autres pays, ouais, je comprends, mais jusqu'à preuve du contraire, on va penser que c'est une bonne personne. Mais tu sais, les Crétois n'avaient pas une bonne réputation. Ils n'avaient pas la meilleure des réputations. Quand je suis allé au Mexique visiter mon beau-père il y a 3 ans avec ma famille, il me dit, hey, on va aller dans une ville où tous les Québécois vont quand ils vont au Mexique. Je dis, OK, on va aller souper dans la ville où tous les Québécois vont. Ouais. On arrive au restaurant, puis la dame, elle me dit, where are you from? Je dis, du Québec. OK. Elle n'était pas contente, pantoute, d'avoir un Québécois dans son restaurant. J'ai dit, désolé, qu'est-ce que vous voulez? Mais je viens pas du Québec, je viens de Montréal. C'est pas vraiment le Québec, tu sais. Non, sans blague. C'est ce que vous dites, c'est pas moi. C'est dans vos journaux, ça, c'est pas moi. C'est ce qu'on se fait dire, on n'est pas vraiment le Québec. Mais en tout cas, longue histoire courte. Mais j'arrive du bas du fleuve, je me suis fait dire pendant 2 jours, c'est pour ça que je dis ça. Mais bon, il y a certains groupes de personnes, dont les Crétois, qui n'ont pas la meilleure réputation. Mais Paul, ce qui le préoccupe vraiment, c'est est-ce que les Crétois sont fructueux pour le Seigneur? N'importe qui est rempli de l'Esprit, qu'il soit Crétois, qu'il soit Québécois, qu'il soit de tel pays, de tel autre endroit, si le Saint-Esprit est au contrôle de leur vie, le fruit de l'Esprit va être visible. Puis l'apôtre Paul, il dit, en fond, il dit à Tite, il dit, fais attention. Parce que même si tu es dans un lieu difficile, et si tu as des gens difficiles, je veux que ces gens-là, remarquez le verset 14, apprennent à pratiquer de bonnes œuvres pour subvenir aux besoins pressants. Rapidement, remarquons premièrement au verset 14. En fait, ce qu'on va faire, on va commencer par la fin, puis on va remonter le courant un petit peu. Verset 14, marqué qu'il y a un danger. Le danger, c'est une vie sans fruits. Il dit, il faut que les nôtres aussi apprennent à pratiquer de bonnes œuvres pour subvenir aux besoins pressants, afin qu'ils ne soient pas sans produire de fruits. Clairement, Paul voit ça comme un danger que les gens de Crète, qui sont sauvés, la gloire à Dieu pour ça, mais qu'ils ne produisent pas de fruits. C'était absolument possible et réaliste que les gens de Crète soient sauvés, organisés en église locale autour de leur île, mais infructueux pour Dieu. Puis Paul leur dit, assure-toi qu'ils apprennent ou qu'ils ne soient pas sans produire de fruits. Vous savez, le fruit, ça n'arrive pas par accident. Maintenant, le fruit, ça arrive organiquement. Tu peux pas faker du fruit. Du fruit, ça vient de l'intérieur. Et nous, quand on veut porter du fruit, c'est le Saint-Esprit qui contrôle notre vie. Et c'est lui qui produit le fruit à travers nous. C'est même lui qui produit le vouloir et le faire. Ça nous dit selon son bon plaisir. Mais moi, ma femme, elle aime beaucoup que notre gazon soit vraiment vert. Elle veut avoir le plus beau gazon sur toute la rue. C'est pas vraiment difficile, honnêtement, là, mais bon, ça c'est un autre sujet. Mais là, elle va me dire, Eric, ça serait bon que tu ailles semer du gazon. Mais vous savez, la seule raison pourquoi on a amené notre gazon c'était abjectement terrible quand on achète la maison, à un gazon que les gens, les voisins me demandent comment je fais, c'est simple, c'est très très simple. Tu planifies, puis tu sèmes, puis tu sèmes. Puis quand tu sèmes, ça porte du fruit. J'ai découvert que la façon de sortir des mauvaises herbes de mon gazon, c'est de semer du bon gazon. Si tu es intentionnel, puis tu sèmes, tu finis par avoir la victoire. Mais si tu ne fais rien, ça ne sera pas fructueux. Il faut que tu en aies l'intention. Il faut que tu prennes cette décision-là. Puis ici, l'apôtre Paul, il dit, « Je veux que ces gens-là ne soient pas sans produire de fruits. » Une vie infructueuse aux yeux de Dieu, ce n'est pas une vie qui ne fait rien, mais c'est une vie qui ne fait rien de ce qui compte aux yeux de Dieu. Donc, il faut qu'on soit préoccupé par les choses qui préoccupent Dieu. Mais remarquez deuxièmement, puis je vais aller vite ici au verset 14, il y avait un remède pour ne pas avoir une vie infructueuse. Pour ne pas se présenter devant Dieu avec rien à montrer ou rien à dire. Remarquez le début du verset 14. Il dit, « Il faut que les nôtres aussi apprennent. » à pratiquer de bonnes œuvres pour subvenir aux besoins pressants. Maintenant, le mot pressant, on pourrait le traduire essentiel. C'est pas pressant dans le sens que la personne va mourir aujourd'hui si tu lui donnes pas, mais le mot pressant, c'est essentiel, des choses essentielles. Donc, Paul dit, je crains que les Crétois ne portent pas de fruits. Et comment est-ce qu'ils peuvent porter du fruit? Bien, le début du verset nous dit qu'ils pratiquent de bonnes œuvres pour subvenir aux besoins pressants. Maintenant, moi, je suis un peu en mode sur ce texte-là, parce que nous, notre conférence missionnaire commence vendredi, puis ensuite samedi, puis ensuite dimanche. Donc, le mois de novembre, c'est notre mois d'émission, puis on parle beaucoup d'œuvres missionnaires, de soutien missionnaire pendant le mois de novembre. Puis j'expliquais à l'église récemment, j'ai dit, une des raisons pour laquelle on s'intéresse aux missions, je vois vos drapeaux en arrière, je sais que vous soutenez des missionnaires, dont notre famille, on l'apprécie, mais nous aussi, on soutient des missionnaires, puis une des raisons, il y en a plusieurs, parce que notre mandat, c'est d'aller de faire toutes les nations des disciples. Mais une autre raison aussi, c'est parce que on ne veut pas être infructueux. On ne veut pas arriver devant le Seigneur, puis tout ce qu'on a fait dans notre vie, c'était des choses que arriver au ciel n'avait pas vraiment d'importance, n'avait pas de poids aux yeux de Dieu. Puis si je veux avoir une vie qui porte du fruit, il faut que je sois investi dans les choses qui comptent aux yeux de Dieu. Il dit, il faut que les nôtres aussi apprennent à pratiquer de bonnes œuvres pour subvenir aux besoins pressants. Puis le remède, c'était qu'ils apprennent à s'occuper des serviteurs du Seigneur. Laissez-moi le mettre dans des mots très clairs. On va le regarder au verset 13 dans un instant, mais ils avaient deux hommes qui étaient en transit à travers l'île de Crète, Zénas puis Apollos. Puis ces deux hommes-là arrivent à Crète, et puis clairement, ils sont là pour l'œuvre de Dieu. Et Paul dit, assure-toi bien de les soutenir. Assure-toi de les aider matériellement dans l'œuvre qu'ils doivent faire. Et puis ensuite, il dit, en passant, il faudrait que les Crétois apprennent à faire ça afin qu'ils ne soient pas sans produire de fruits. Fait qu'ils ne soient pas infructueux. Donc, une des raisons pour lesquelles, à l'Église baptiste centrale de Laval, mais je sais que c'est vrai ici aussi, que les gens viennent, puis qu'ensuite, notre Église désire les aider à aller, je ne sais pas, ça peut être en Côte d'Ivoire, ça peut être en Indonésie, ça peut être au Québec, peu importe où. Pourquoi on veut les aider? C'est parce que arriver au ciel, je veux dire au Seigneur, je me suis investi par ta grâce, par ton esprit qu'il faisait à travers nous, on s'est investi dans les choses qui comptent à tes yeux. Puis je le dis souvent aux gens de notre Église, la raison pourquoi on fait ça, c'est pas parce qu'on cherche des dépenses puis on veut envoyer de l'argent à droite et à gauche, mais c'est parce que on veut avoir du fruit qui abonde pour notre compte. Et c'était un remède. Dans Philippiens chapitre 4, verset 4, Philippiens 4, verset 17, l'apôtre Paul écrit à l'Église de Philippe qu'il l'avait souvent aidé lorsqu'il y avait des besoins financiers comme missionnaire. Puis il dit, ce n'est pas que je recherche les dons, mais je recherche le fruit qui abonde pour votre compte. C'est-à-dire que chaque fois que l'apôtre Paul, dans son ministère, Dieu faisait des choses à travers Paul, il y avait une partie du fruit qui était, si vous me permettez l'expression, mise sur le compte des Philippiens. C'était les Philippiens qui avaient une part dans ce fruit-là. Mais pourquoi est-ce qu'on veut soutenir des missionnaires ou s'impliquer dans l'émission, ces choses-là? C'est parce que, plusieurs raisons. On veut former des disciples, on veut prêcher la bonne nouvelle à toute la création, c'est notre devoir. Mais aussi, en tant qu'individu là, dans une église, afin que nous ne soyons pas sans produire de fruits. Est-ce qu'il y a d'autres façons de produire du fruit? Absolument. Chaque fois que vous êtes sensible à l'Esprit et que vous faites ce que l'Esprit vous demande de faire, vous portez du fruit. Puis chaque fois que vous faites quelque chose qui ne vient pas poussé par l'Esprit, aussi beau que ça puisse paraître, vous n'êtes pas en train de porter du fruit. Parce que c'est lui qui le produit. Mais ultimement, aussi, on veut ne pas être infructueux. Puis ici, il le rend clair dans le passage que si on s'occupe de ceux qui sont là pour prêcher l'Évangile, alors nous allons porter du fruit. Il dit dans Philippiens 4, ce fruit-là, qui est le missionnaire, l'apôtre Paul, dans ce cas-là, a abonde à leur compte. Votre vie, elle va produire quelque chose. La seule question, c'est, est-ce que ça va produire quelque chose qui a de la valeur aux yeux de Dieu? Là est la question. Tout le monde produit quelque chose de sa vie, mais est-ce que ça produit quelque chose aux yeux de Dieu? Le fruit pour Dieu, c'est pas un accident. C'est provoqué par le Saint-Esprit, mais c'est aussi un choix alors qu'on se soumet au Saint-Esprit. Si on ne lui résiste pas, si on dit « Seigneur, qu'est-ce que toi tu aimes? C'est quoi ton objectif dans ce monde? Tu habites en moi. Maintenant, je connais tes objectifs par ta parole et je me soumets afin que toi, tu fasses quelque chose pour l'évangélisation de ma communauté, l'évangélisation de ma province, de mon pays et du monde, alors que tu œuvres à travers moi. Puis je complète avec le verset 13. Il dit, « Aie soin de pourvoir au voyage de Zénas, le docteur de la loi, et d'Apollos, en sorte que rien ne leur manque. » Toute la discussion qu'il vient d'avoir dans au verset 14 en particulier, c'est provoqué par une situation bien précise. C'est qu'à Crète, comme je viens de le dire, il y a deux hommes qui arrivent. Zénas, on ne le connaît pas vraiment. On sait que c'est un expert dans la loi de Moïse. Ça nous dit que c'est un docteur de la loi. On dirait un avocat aujourd'hui, mais précisément dans les affaires de loi juive. Après ça, il y a Apollos. Apollos, lui, on le connaît un petit peu mieux, parce qu'on l'a rencontré dans Actes chapitre 18. C'est un homme très éloquent. Il venait d'Alexandrie, en Égypte, un juif d'Alexandrie. Très éloquent, très versé dans les Écritures, puis là, je ne veux pas insulter l'apôtre Paul, mais il est encore plus convaincant que l'apôtre Paul quand il prêchait. Parce que quand Paul est passé à Corinthe, certaines personnes n'ont pas écouté, mais ensuite, quand Apollos est arrivé à Corinthe, par exemple, là, il y a des gens qui disent « Waouh! » Et lui, là, quand il prêche, Aquilas et Priscille l'ont entendu prêcher, puis ils ont dit « Il y a des affaires qu'il ne comprend pas, inclut le baptême. » Fait qu'Aquilas et Priscille l'ont pris de côté, puis j'apprécie qu'Apollos avait l'esprit, je vais inventer un mot, là, mais enseignable, avait été réceptif à l'enseignement, et puis il a mieux compris. Puis ça nous dit dans Acte 18 et le verset 28, pardon, Apollos réfutait vivement les Juifs en public, démontrant par les Écritures que Jésus est le Christ. Ça dit, il se rendit par la grâce de Dieu très utile à ceux qui avaient cru. C'est qui Apollos? C'est un évangéliste qui, en particulier, c'est un missionnaire aux Juifs, c'est ce que c'était. C'est un missionnaire aux Juifs. Clairement, il y a son partner, Zénas, le docteur de la loi. Ils sont à Crète. Puis Paul dit, écoute, je voudrais que tu t'assures de les aider physiquement, matériellement, dans leurs besoins, afin qu'ils puissent continuer leur ministère. Puis en passant, titre, toi qui es à Crète, ça serait bon que les nôtres, les chrétiens de Crète, apprennent à pratiquer de bonnes œuvres, eux aussi, pour subvenir aux besoins essentiels des serviteurs de Dieu. Pourquoi? Afin qu'il ne soit pas sans produire de fruits. Quelqu'un qui n'est pas occupé aux choses de Dieu va être occupé aux choses qui ne sont pas de Dieu. Ce n'est pas de la grande logique, là. Si je ne me préoccupe pas des choses de Dieu, je vais me préoccuper des choses qui ne sont pas de Dieu. Si je ne fais pas les choses qui sont importantes aux yeux de Dieu, je vais faire des choses qui ne sont pas importantes aux yeux de Dieu. Si ma vie ne porte pas du fruit pour Dieu, tout fruit qu'elle porte ne sera pas pour Dieu. Et ici, clairement, les Crétois, il y avait un problème. Je n'ai pas le temps de lire, mais dans le chapitre 1, c'est très bien détaillé. Crétois, toujours menteur, puis plein de choses assez dures. Puis l'épître se termine en disant, mais je voudrais que ces gens-là aussi portent du fruit. Moi, je rends grâce à Dieu qui m'a sauvé. Ça je ne le dirai jamais assez. Merci Seigneur de m'avoir sauvé. Mais je dis aussi merci que m'ayant sauvé, il m'a donné une raison d'être. Il m'a donné une raison d'être. Il y a une jeune femme qui a assisté à notre église un certain temps. Et puis, je ne suis pas certain qu'elle a accepté le Seigneur, mais elle a fait une tentative de s'enlever la vie, quand même assez récemment. Et puis, quand je parlais à quelqu'un d'autre, puis par proxy, on échangeait des messages avec une dame. Et puis, la raison est qu'elle s'est dit, je ne sais pas pourquoi j'existe. Il y a beaucoup de monde qui sont déprimés parce qu'ils ne savent pas pourquoi ils existent. Ils sont déprimés, ils n'ont pas de raison d'être. En tant que chrétien, on sait c'est quoi notre raison d'être. On sait c'est quoi. Mais encore faut-il l'accomplir. C'est quoi notre raison d'être? Mais dans Matthieu 28, il nous en donne une partie. Allez, et faites de toutes les nations des disciples. On est là pour faire des disciples. Est-ce que c'est moi dans mon pouvoir que faire des disciples? Absolument pas. Dans Actes 1-8, vous recevrez une puissance pour ça. Puissance, cette puissance-là, vous ne pourrez pas le faire. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et là, vous serez mes témoins. Mais ultimement, ayant reçu l'Esprit, puis l'Esprit qui veut le faire à travers nous, nous devons être ces témoins-là. Maintenant, comment est-ce qu'on va faire pour atteindre tout le Québec alors qu'on est seulement dans une ville à la fois? Comment est-ce qu'on va faire pour atteindre le Canada? Comment faire pour atteindre le monde? Bien, on va le faire en étant des partenaires avec des gens qui vont physiquement y aller. Alors qu'eux vont dans ces endroits-là, c'est du fruit qui va aborder en notre compte. Puis là, quelqu'un pourrait dire, « Ouais, puis moi, ça m'apporte quoi? » Encore là, je sais que vous ne poserez pas la question dans d'une façon aussi égoïste que ça. Mais une des nombreuses raisons pour lesquelles vous devriez, et nous devons, aider ceux qui vont aller propager l'Évangile, c'est afin que, selon ce verset-là, nous ne soyons pas sans produire de fruits. Soutenir des missionnaires, ça ne remplace pas l'œuvre ici dans l'Église locale. C'est pas un ou l'autre, c'est les deux, OK? Ça ne remplace pas de vivre une vie sainte, pas par mes efforts, mais par le Saint-Esprit qui me transforme surnaturellement. Ça ne remplace pas un ou l'autre, c'est les deux. Mais en m'impliquant afin de voir l'Évangile propagé ailleurs, eh bien, c'est une façon parmi tant d'autres de s'assurer que quand je vais arriver devant le Seigneur Jésus, je ne serai pas sans avoir produit de fruits. Parce que j'aurai du fruit qui abonde pour mon compte, en ayant, m'étant occupé des... Azénar, c'est avec le Seigneur aujourd'hui. Apollos, c'est avec le Seigneur, mais on en a d'autres. Des gens avec qui on peut aider afin qu'eux aussi puissent faire l'œuvre. Il y avait un pasteur... disons de Sam Dury, 77 ans, c'est un pasteur à la retraite. Il avait fait certains voyages missionnaires en Russie, plus précisément à Moscou. Puis il voulait vraiment aider l'œuvre de Dieu en Russie. Et puis, pendant sa retraite, il prenait des heures, 4 heures par jour. Puis ce qu'il faisait, c'est qu'il bâtissait et construisait des cabanes d'oiseaux. Puis il allait se promener dans des foires ou dans des marchés, comme un peu tu sais, le marché dans le Vieux-Québec à Noël. Là, tu vois, beaucoup d'artisans qui vont être là. Et puis, il allait vendre ses cabanes à oiseaux. Et puis, selon ce qu'il disait, il avait réussi en 6 ans à accumuler 85 000 $ juste en faisant des cabanes à oiseaux pour aider l'œuvre de Dieu précisément dans un endroit, un ministère précis en Russie. Puis, il disait... Je ne fais que ce que Dieu me demande de faire. Dieu a un plan pour ma vie et j'essaie simplement par sa grâce de l'accomplir. Ce n'est pas un message très compliqué cet après-midi, mais est-ce que votre vie porte du fruit? Le plus important, c'est le fruit de l'esprit, on le voit dans Galates 5. Quand on se soumet au Saint-Esprit, il produit des traits de caractère, il produit une efficacité dans notre vie. Dans notre témoignage, encore, on a une puissance et c'est lui qui va produire la puissance de faire ce qu'on doit faire. Mais ultimement, votre vie, demain, vous l'investissez quelque part. Cette semaine, la vie en général, on l'investit dans une direction. Puis je pose la question. Est-ce que votre vie, elle porte vraiment du fruit? Quand vous allez être devant le Seigneur, est-ce que vous allez pouvoir dire, par sa grâce, « Ma vie, t'a rapporté ceci. » J'ai investi dans ça parce que c'était important à tes yeux, puis je sais, voici ce que ça rapporte. Est-ce que du fruit qui abonde pour votre compte? Comment faire? Pasteur Roy va en parler beaucoup plus. Je suis sûr au fil des ans, il l'a déjà fait souvent dans toute l'histoire de l'Église, j'en suis convaincu ici. Mais une façon, pas la seule façon, loin d'être la seule façon, mais une façon, c'est justement de faire comme les Crétois devaient faire, s'occuper de Zénas, s'occuper d'Apollos, pour que quand eux vont travailler pour le Seigneur ailleurs, que ce soit du fruit qui abonde pour votre compte. Depuis maintenant une dizaine d'années, l'Église baptiste de Saint-Augustin nous soutient, puis on l'apprécie. Mais ultimement, même si vous me disiez, écoute, c'est beau, je pense que tu n'as plus besoin de soutien, on arrête de te soutenir, ça serait tout à fait correct. Mais ultimement, les 10 ans, c'est pas pour nous. C'est ultimement pour qu'il y ait du fruit au ciel qui abonde à votre compte. Quand des gens sont venus à Christ à Laval, c'est du fruit qui abonde à votre compte. Quand vous soutenez des missionnaires dans d'autres pays, je ne sais pas mémoriser, mais je ne sais pas quel pays, je vois des pays, je pourrais peut-être dire la Roumanie, je pourrais dire le Mali, je vois des drapeaux là-bas, je ne vais pas faire mon petit Joe connaissant avec tous les drapeaux, là. Un missionnaire en Espagne, je ne sais pas si vous en avez un, mais s'il y a des gens en Espagne qui viennent à Christ, il y a du fruit qui abonde à votre compte. De façon très tangible, quand vous arrivez devant le Seigneur, est-ce que vous avez une vie qui est sans fruit? Non. Parce qu'en partie, il y a du fruit qui abonde à votre compte dans ces endroits-là. Puis, quand on parle de mission, c'est pas simplement... Oui, c'est absolument pour accomplir notre mission, mais c'est aussi pour engranger du fruit. Et puis, je vous encourage à toujours être sensible de l'esprit. Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Puis, trop souvent, honnêtement, laisse-moi juste être très personnel pour un instant. J'ai souvent vu des conférences missionnaires où ça devenait presque de la manipulation parce qu'on voulait faire augmenter un chiffre. Je pense que c'est malsain, ça. Parce que tout ce qui est monté en épingle par l'homme, c'est un char de coups de carte qui finit par s'effondrer. Mais quand chaque individu sincèrement dit « Seigneur, je ne veux pas faire ce que je veux faire, je veux faire ce que tu veux que je fasse. » Et puis qu'on est vraiment, il faut que notre vie soit pure, mais ensuite on est vraiment sensible. « Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse? » Je vais être franc avec vous pendant des années, là, je donnais mon offrande par la foi, juste parce que je voulais en faire plus que l'année d'avant. Je voulais bien faire, mais je le faisais simplement par orgueil. C'était, le résultat pouvait sembler bon, mais dans mon cœur, la motivation n'était pas la meilleure. Parce que c'était pas vraiment « Seigneur, que veux-tu que je fasse? » C'est « Seigneur, voici ce que je vais faire pour toi! » C'était vraiment une question d'optique différente. Mais j'ai réalisé qu'il y avait beaucoup plus de joie à donner aux missions quand c'était pas parce que je me sentais une pression d'en faire plus. J'ai réalisé que quand le Saint-Esprit te motive, t'en fais toujours plus que par la chair, tout le temps. Mais, d'une façon qui peut être soutenue, d'une façon aussi dans laquelle tu as la joie. D'une façon, tu le fais avec paix. Tu n'es pas inquiet parce que tu sais que c'est le Saint-Esprit qui t'a mis à cœur. Tu ne dis pas, j'ai-tu fait une gaffe. Tu as la paix. C'est fait avec amour. Amour pour le Seigneur en premier, puis amour pour le prochain. Et puis, tout le reste du fruit qu'on peut trouver dans Galates chapitre 5. Mais je vous encourage à continuer comme vous l'avez fait tant d'années. Vous continuez à le faire, d'être impliqué pour l'évangélisation ici à Saint-Augustin, dans toute la région. Puis jusqu'aux extrémités de la terre, pour accomplir notre mission, mais aussi parce que ça va avoir du fruit qui abonde à votre compte. Père Céleste, merci pour ce rappel que tu m'as fait dans mon propre culte personnel assez récemment. Puis je te demande, Seigneur Jésus, que tu continues de nous aider, à continuer à être sensibles à toi, afin que lorsque tu nous mets à cœur de faire quelque chose, nous le fassions, en sachant qu'en le faisant, ce sera du fruit qui va abonder pour notre compte. Merci pour l'Église baptiste de Saint-Augustin. Merci pour leur leadership depuis tant d'années. Merci pour ce que tu as accompli ici et à travers eux aussi. Et Seigneur Jésus, je prie que tu continues à leur donner du fruit qui abonde. Au niveau local, mais aussi au loin. Des choses qui sont au-delà de la mesure de l'homme. Et qui ne peuvent être mesurés que par l'éternité. Parce que ce qui se fait par l'homme, ça peut se mesurer dans le monde, mais ce qui se fait par toi, ça ne peut être mesuré qu'éternellement. Et nous t'avons confiance que tu continueras d'œuvrer en nous et à travers nous. Et toute la gloire te reviendra. Je le prie dans le nom du Seigneur Jésus. Amen.
Amen. Amen. Hey! Tu sais, quelqu'un qui nous fait ça de même, là, un genre de clin d'œil. Là, on a un clin d'œil assez évident du Saint-Esprit. Là. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais je parlais avant, puis... C'est pas arrangé avec...
Le
gars des vues. Ben, en tout cas, le gars des vues, ouais. Du... C'est arrangé avec le contremaître général de l'Église, le Saint-Esprit.
Amen.
Ouais. Je venais de parler d'une couple d'affaires, puis ça va exactement dans le sens...